Radio Kapi.
Grâce à Mzati Massandi pour le journal.
Au sommaire de ce journal, alerte sanitaire à la prison de Mbanzangungu. Une épidémie de choléra fait déjà plusieurs victimes. Les autorités annoncent des mesures d'urgence pour freiner la propagation de la maladie dans cet établissement surpeuplé du Congo central. À Ituri, des animaux errants envahissent l'aéroport de Bunia et menacent les vols. Face au danger, le maire ordonne des mesures radicales pour sécuriser la piste. Autonomisation des femmes, comment renforcer leur rôle dans le développement local? Élément de réponse avec notre invitée, Madame Yacinthe Imbu, responsable de l'Ice Bell, établissement Malaika, engagé auprès des femmes de la commune de Lancili, ici à Kinshasa. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Commençons ce journal par cette urgence sanitaire à la prison centrale de Mbanzangungu. Le ministre de la Justice confirme qu'une épidémie de choléra s'est déclarée dans cet établissement du Congo central depuis le 27 mars. Le bilan provisoire fait état des 11 décès et des 74 cas parmi environ 800 détenus. Sur son compte X, Guillaume Ngefa annonce avoir pris des mesures exceptionnelles, dont la suspension temporaire des nouvelles admissions afin de contenir la propagation de la maladie et de protéger les personnes privées de liberté ainsi que le personnel pénitentiaire. Le point avec Alain Irungu-Mushinji.
Dès l'apparition des premiers cas, le ministre de la Justice dit avoir engagé une coordination immédiate avec son collègue de la Santé. Un centre de traitement du choléra a été installé au sein de la prison, des lits supplémentaires ont été mobilisés et les cas graves sont transférés vers les structures spécialisées, annonce Guillaume Ngefa. Il ajoute que les équipes médicales assurent une prise en charge continue, procèdent à la vaccination et mènent des actions de prévention. Parallèlement, des opérations d'assainissement, de désinfection et de contrôle de la qualité de l'eau sont en cours pour limiter la propagation de l'épidémie, précise le garde des Sceaux. Le gouvernement reste pleinement mobilisé et réaffirme son engagement à protéger la santé et la dignité des détenus, à soutenir le personnel pénitentiaire et à renforcer durablement les dispositifs de prévention face à cette crise sanitaire, conclut Guillaume Ngefa.
Et dans la province de la Tchopo, une crise humanitaire sévit à la prison centrale de Kisangani. Depuis un an, les détenus sont livrés à eux-mêmes, privés des subventions étatiques. La société civile dénonce cette situation alors que la famine menace. Les détails avec Jacques Mukonkole.
C'est un véritable cri de détresse qui s'échappe des murs de la prison centrale. Depuis 4 trimestres, l'assiette du détenu est désespérément vide. Ici, on ne mange plus à sa faim. Pour survivre, les pensionnaires dépendent désormais de la générosité aléatoire des églises et des associations caritatives. Mais la crise n'est pas qu'alimentaire, elle est aussi sanitaire. Faute de moyens, le dispensaire de la maison carcérale est en rupture totale de médicaments, laissant les malades sans soins. Le tableau est d'autant plus sombre que la prison étouffe. Construite initialement pour 500 personnes, elle en compte aujourd'hui plus de 1400, dont une vingtaine de femmes. Un superpeuplement qui exacerbe les tensions. Contacté, le directeur de la prison, Junior Okunji Amouri, ne nie pas l'évidence. Il affirme que les autorités sont conscientes de ce calvaire et promettent une réaction positive dans un bref délai. En attendant que les promesses se transforment en sacs de farine ou en boîtes de médicaments, la société civile maintient la pression et rappelle à l'État son obligation de protéger la vie de ceux qu'il prive de liberté. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Province du Haut-Katanga, plusieurs armes à feu et armes blanches, des munitions ainsi que des effets militaires ont été saisis tandis que plus de 200 présumés criminels ont été interpellés. C'est le bilan de l'opération de bouclage menée ce week-end par les services de sécurité et de défense au camp militaire Major Vangu dans la commune de Kampemba à Lubumbashi. La police précise que les personnes arrêtées seront déférées devant les instances judiciaires compétentes. Paul Munanga.
Parmi les présumés criminels qui ont été interpellés, il y a des militaires en situation irrégulière, des civils et des femmes. La police annonce la saisie de 19 armes à feu de marque AK-47, des munitions, des effets militaires, des armes blanches telles que des machettes, des barres à mine, des cisailles et des marteaux. Signalons aussi d'autres objets saisis comme des boissons fortement alcoolisées, une importante quantité de chanvre et de motos. La police a organisé cette vaste opération de bouclage accompagnée par les éléments des FARDC et d'autres services de sécurité. Et l'opération a été supervisée par le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba. Sur le terrain, les policiers et éléments des FARDC ont procédé à des fouilles systématiques des maisons d'habitation, des boutiques, des terrasses, des kiosques, des dépôts et un marché de fortune érigé au niveau du camp major Vangu n'a pas été épargné. À l'issue de cette opération, le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga a invité la population à renforcer sa collaboration avec les services de sécurité et de défense. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Pendant ces temps, de fortes agitations ont marqué la fin du week-end à Shabunda, au sud Kivu. Les forces armées de la RDC y ont mené des opérations de traque contre Amisi Sisawa, alias Muswahili, un seigneur de guerre autoproclamé général. Se présentant comme leader Muzalendo, il est accusé de multiples exactions commises par ses troupes contre la population civile. Ce dimanche, les FARDC ont lancé un assaut sur lui et ses hommes dans la localité de Kitete à Shabunda Centre. Le bilan fait état de l'arrestation du général autoproclamé, des deux morts, deux blessés graves et 13 capturés parmi ses compagnons d'armes. Plus d'explications avec le porte-parole de l'armée dans cette zone du Sud Kivu, le sous-lieutenant Meya Jérémy, joint par Jean Kassami.
Ce dimanche 29 mars 2026, les FARDC du secteur opérationnel Soukoula des Nord-Sud Kivu ont procédé professionnellement à la traque d'une association de malfaiteurs qui se font passer à tort pour Wazalendo, sous commandement direct de M. Amisi Sisawa alias Muswahili, au niveau de Kitete, une des localités du centre du territoire de Shabunda. Ces derniers temps, la population civile de cette contrée est victime des exactions multiples, notamment pillage, extorsion, torture, travaux forcés, pour ne citer que cela, singulièrement dans les carrés miniers. Cependant, pour préserver les vies humaines et la liberté de chaque citoyen qui sont garantis par notre constitution, ces derniers ont été traqués après échange de tirs vers 4h heure locale, d'où 5 armes type AK-47 ont été récupérées par nos forces. Rappelons que les vrais volontaires défenseurs de la patrie, pour le moment, sont dans des différentes lignes de front à côté de nos forces régulières en train de combattre pour l'intérêt de la République.
Nous l'avons dit dans les titres, en Ituri, la présence d'animaux en divagation dans l'enceinte de l'aéroport de Bunia représente un réel danger pour la sécurité des avions et des passagers, en cause notamment la proximité des habitations et l'absence des clôtures. Face à cette situation, le maire de la ville vient d'instruire les forces de sécurité d'abattre toutes les bêtes errant dans la concession de la régie des voies aériennes. À Bunia, Isaac Raymond.
Selon des sources aéroportières, ce sont surtout les chiens et parfois des chèvres qui sont régulièrement aperçus dans l'enceinte de l'aéroport. Malgré les efforts pour les évacuer, les dangers persistent pour les avions et les passagers. Une situation d'autant plus préoccupante que l'aéroport de Bunia évolue vers les standards internationaux avec une augmentation du trafic après les travaux d'élargissement de la piste. Autre facteur de risque, la proximité des habitations avec la piste. Plusieurs dizaines de familles ont déjà été délocalisées et indemnisées. Mais certaines tardent à partir, réclamant des compensations jugées excessives. À cela s'ajoute l'absence de clôture autour de la concession, ce qui facilite l'accès des animaux. Pour renforcer la sécurité et prévenir d'éventuels accidents, le maire a interdit la circulation des bêtes des habitants du quartier proche de l'aéroport, notamment Bandai, Mbunya 1, Chunga et Tsere, dans la concession de la RVA. Dans un communiqué publié le 25 mars, il a ordonné aux militaires des FARDC d'abattre tout animal en divagation dans l'enceinte de l'aéroport, une mesure saluée par plusieurs agences de transport aérien qui appellent surtout à la construction de clôtures autour de l'aéroport. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Direction Nord Kivu, l'axe routier Goma-Masisi est devenu un véritable calvaire pour les usagers. Entre les éboulements qui bloquent le trafic et la boue à plusieurs endroits, ce tronçon pourtant vital est aujourd'hui à l'agonie. Conséquence, les usagers déplorent la hausse des prix des transports et les trajets qui deviennent interminables. La description de ce calvaire routier avec Rosalie Zawadi.
Auparavant, 4 heures suffisaient pour atteindre les marchés de Nyabiondo. Aujourd'hui, il en faut au moins 7, comme le témoigne cette commerçante de Goma. Pour elle, ces temps perdus et la hausse des prix rendent chaque voyage de plus en plus insupportable.
On payait 30 000 francs pour arriver à Niabiondo. Aujourd'hui, on nous demande 50 000 francs parce que la route est en mauvais état. À certains endroits, on descend des motos et on marche à pied sur de longues distances. Lorsqu'on trouve un tronçon en bon état, on monte encore sur les motos.
Habitués de ces taxes, ces motards dressent l'état des lieux de cette route.
C'est au niveau de Matanda que la route est vraiment en mauvais état. Il y a un éboulement. Les tracteurs essaient de réparer, mais c'est difficile. Au niveau de la rivière, il y a Kajan. Là aussi, il y a un grand problème. J'ai pris une petite pluie pour que cette rivière déborde. Il y a aussi Bihambwe, l'axe qui mène vers Gupaya. C'est l'endroit le plus compliqué. Il faut beaucoup d'efforts à un montant de passer par là.
Les acteurs locaux de Massissi redoutent que ces calvaires routiers ne provoquent une flambée des prix, non seulement sur les marchés locaux, mais aussi à Goma, qui reçoit chaque jour des produits vivriers venus des montagnes de ces territoires. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Merci de suivre Radio Okapi en Mbujimayi, au Kasaï oriental, où des centaines de femmes chargées de l'assainissement des routes récemment asphaltées alertent sur leurs conditions de travail. Elles affirment n'avoir reçu ni salaire ni prime depuis près de 9 mois. Les structures d'assainissement et la mairie se renvoient à la responsabilité du PMA. Par ailleurs, dans la province du Maniema, la régie des voies fluviales, premier secteur Lualaba, Ubundu, Kindu, alerte sur la montée des eaux du fleuve Congo. Face à cette situation, Amadi Assoumani Asuka, directeur provincial de la RVF, appelle les habitants ayant construit dans les zones de servitude des cours d'eau à évacuer et à ne pas y revenir. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
La ville de Kindu que nous connaissons depuis plusieurs années, fait aujourd'hui face à une réalité de plus en plus préoccupante, celle des montées des eaux récurrentes, devenue presque un phénomène habituel à chaque saison de pluie. Autrefois, ces situations étaient rares et bien maîtrisées grâce à une gestion rigoureuse du fleuve et au respect des zones riveraines. Mais aujourd'hui, avec l'expansion urbaine non planifiée, l'occupation anarchique des berges, ainsi que des pratiques inappropriées telles que les rejets de déchets. C'est ce qui provoque les débordements des eaux. Aujourd'hui, la lecture d'échelle d'étiage est de 5,39 m. L'eau est en train de monter d'une vitesse terrifiante. Mais nous demandons à toute la population qui a érigé des habitations au niveau des lits de tout cours d'eau dans notre province d'évacuer d'urgence. Une fois que nous dépassons cette période, qu'il ne revienne plus, que ça ne devienne pas comme une monotonie.
Actualité internationale.
Au moins 73 personnes ont été tuées et 25 blessées lors de l'attaque par des assaillants non identifiés d'une mine d'or au Soudan du Sud, annonce ce 30 mars 2026 le vice-président du pays. Une enquête formelle devra déterminer l'identité et le mobile de ces assaillants non identifiés, indique dans un communiqué le vice-président sud-soudanais James Wani Iga.
L'invité.
C'est Madame Yancinte Imbu, responsable de l'Ice Bell, établissement Malaika. Elle s'exprime sur le renforcement de l'autonomisation des femmes dans les milieux en voie de développement. Ici à Kinshasa, cette structure accompagne notamment les femmes de la commune de Lancélé dans leurs initiatives entrepreneuriales. Yancinte Imbu s'entretient avec Askin Zigbia Tayoro.
Bonjour Madame Yancinte Imbu.
Bonjour Askin.
Votre organisation, dénommée établissement Malaika, vient d'organiser dans la commune de la Célé une conférence débat sur le thème, à savoir renforcement de l'autonomisation de la femme dans le milieu en voie de développement. Qu'est-ce qui a motivé le choix de cette thématique?
Tout d'abord, le choix de cette thématique s'est fondé plus sur le besoin de femmes et de jeunes filles habitant le milieu en voie de développement à Kinshasa. Déjà, le projet, c'est de travailler plus dans tout le milieu qui en voie de développement à Kinshasa. Mais pour un début, nous avons commencé d'abord à la commune de Lancélé, qui est aussi considérée comme une commune en voie de développement. Et en étudiant le besoin, en étudiant le problème de femmes et de jeunes filles qui habitent cette commune, vous allez voir que la plupart ne font rien. Elles sont même sous-informées de la notion de l'autonomie. Voilà pourquoi l'établissement Malaika a proposé cette thématique pour faire comprendre aux femmes qui habitent Lancélé c'est quoi l'autonomisation et puis leur donner aussi des initiatives qui vont leur aider à devenir réellement autonomes.
Est-ce que avez-vous réellement identifié les femmes qui s'intéressent à l'autonomisation?
Oui, bien sûr, nous avons eu à identifier. Bien avant, avant même la conférence, nous avons enregistré une centaine de femmes qui ne font rien et la plupart aussi font déjà quelque chose, mais ce sont des petits commerces. Elles sont venues répondre à l'invitation parce qu'elles aimeraient bien comprendre la notion de l'autonomie, puisqu'il y a des femmes qui se débrouillent déjà, mais qui n'ont pas la notion comment gérer leurs économies, comment réellement devenir libres et autonomes. Voilà pourquoi on les avait tous invitées. Elles sont venues pour discuter, comprendre, mais surtout s'informer. Voilà.
On le voit, hein, on le sent dans ce que vous êtes en train de dire, que ce n'est pas facile pour les femmes d'une commune qu'on peut qualifier aujourd'hui commune rurale de la Célé, s'émanciper en devenant peut-être entrepreneur. Quelles sont les stratégies que l'établissement Malaïka compte mettre à la disposition alors de ces femmes de la Célé?
Parmi nos stratégies, elles sont nombreuses. Il y a d'abord l'identification. On a déjà lancé des campagnes sur les réseaux sociaux, voire même des porte-à-porte, des descentes sur terrain pour identifier les femmes qui sont dans ces besoins, qui ont besoin d'être autonomes. Il y a aussi une autre stratégie. Comme nous sommes déjà dans un milieu en voie de développement, le coût de la formation ne peut pas être trop élevé par rapport au milieu et par rapport au standing de vie. Donc, nous avons proposé des tarifs vraiment à moitié payants pour faciliter toutes ces femmes à venir suivre la formation, quand bien même que nous sommes limités à notre niveau parce que nous n'avons pas un soutien ni de la part du gouvernement ni des organismes qui peuvent peut-être nous soutenir. Jusque-là, nous travaillons avec nos propres faibles moyens. Voilà pourquoi j'en profite même pour demander aux organisations, aux personnes de bonne volonté qui veulent accompagner les femmes qui sont dans le besoin de devenir autonomes dans le milieu en voie de développement à Kinshasa. Vous pouvez toutefois nous contacter. Votre aide sera vraiment le bienvenu.
Alors, quels sont les genres de formation que vous donnez à cette différentes catégories de femmes, filles mères ou bien femmes libres, femmes veuves et tout comme ça?
Alors, nous organisons plusieurs formations telles que la formation en coupe et couture, la formation en maquillage professionnel, la formation en pâtisserie et fast food. Non seulement des formations, mais nous avons aussi des groupes de pépinières où on enregistre les femmes qui veulent, par exemple, faire le business de loufou. Ils veulent aller soit faire des makala, des projets makala. Il y en a dans le... C'est comme ça d'ailleurs qu'on a dénommé ces projets dans l'établissement. Projet makala. On réunit un groupe de femmes. Et on s'est dit, bon, vous avez combien? Vous avez 100 000, vous avez 50 000. On s'est mis ensemble. On s'élance peut-être à faire des achats en Chine, acheter la braise. Et on vient, on revend. Quand on revend, le bénéfice, on se partage. C'est aussi parmi les stratégies que nous avons mis en place pour aider les femmes qui habitent ces contrées. Voilà.
Madame Hyacinthe Imbu, je vous remercie.
Merci beaucoup, Askin.
Ainsi s'achève ce journal mis en onde par André Mongou et Sylvain Baouguere. La coordination assurée par Élisée Chikota sous la supervision de Lievin Mwinga. Grâce à Mzati Masanzi était à la présentation. Merci.